l'annexation à 5-8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas. Les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Laurine Melka, professeure d'économie à Tourcoing, et deux fois par mois, je m'attaque franco avec vous à des questions économiques qui dérangent. Ici, pas de théorie fumeuse, on part à la rencontre des individus qui font l'économie contemporaine. Bref, cette émission, c'est comme partir en randonnée dans les monts des Flandres. On sort forcément des sentiers battus. Bonjour Léa.
Bonjour Laurine. Après l'épisode sur les avantages et inconvénients économiques de la grande ville, tu voulais poursuivre l'investigation et puis parler d'un phénomène récent, le retour à la campagne et les nouvelles façons d'y vivre.
Avec le mouvement des Gilets jaunes, en lisant la presse, je trouve qu'on avait un peu le sentiment qu'il existait deux Frances. Celle très convoitée des métropoles, avec leur force d'agglomération dont on a déjà parlé dans Splash, et puis une sorte de France délaissée, celle des périphéries et des campagnes. Sauf que ça met de côté un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur, l'exode urbain. C'est-à-dire l'installation de populations urbaines dans des territoires ruraux. Dans une enquête du Centre de recherche politique de Sciences Po, on a posé la question à 15 308 personnes. Si vous aviez le choix, où préféreriez-vous vivre ? 45% répondent à la campagne, 41% dans une ville moyenne et seulement 13% en métropole.
Selon une autre enquête de 2015 conduite ici par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, 65% des Français préféreraient vivre à la campagne contre 35% en ville.
On commence donc à récolter pas mal de données qui confirment cette tendance qu'a analysé Guillaume Faburel, le géographe de l'Université de Lyon 2, avec qui j'ai décidé de poursuivre ma conversation téléphonique.
Oui, pour moi, il y a indéniablement des passions joyeuses de la désurbanisation. Cette désurbanisation, elle se réalise aujourd'hui non pas en luttant de l'intérieur des centres urbains en voie de métropolisation, mais depuis l'extérieur, en fait, dans les périphéries. Voilà. C'est à la suite, alors moi ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille sur les problématiques écologiques, environnementales, d'abord, tout le temps par enquête, hein, mais d'abord sur des lieux de conflit liés à des grands projets d'aménagement, voilà, des conflits environnementaux, sur des lignes à haute tension, sur des projets aéroportuaires, sur des lignes de TGV, etc.
Les zones à défendre, les fameuses ZAD, sont apparues en 2010. Ce sont des contestations citoyennes de grands projets déclarés d'utilité publique au nom de l'environnement et du droit des populations locales. Il y a par exemple le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou le barrage de Sivens dans le Tarn. Ces nouveaux mouvements militants défendent aussi l'autogestion et critiquent fortement l'économie capitaliste. Plus nos dirigeants imposeront une urbanisation forcée, plus ce genre d'initiative sera amené à se développer.
Au village de la Révolution, on lutte contre la répression. Qu'on se démène ou qu'on reste quoi ? Les flics nous passent à tabac.
Et là, maintenant, depuis une dizaine d'années, partant de ce que les villes métropolisées ont induit en termes de comportement, d'usage, de pratique et d'imaginaire, on est allé observer empiriquement des alternatives, des initiatives. Alors, je mets des guillemets, puisque tout serait alternative aujourd'hui, tout serait initiative. Bon.
Vivre en dehors de la métropole, aujourd'hui, et inventer de nouvelles formes de société, il y a donc plusieurs manières de le faire. On peut être zadiste et être dans une certaine radicalité, ou bien chercher à revivre plus localement, parfois en communauté, afin de réduire notamment son empreinte écologique. Bon, si on veut être rigoureux, il n'est pas facile de regrouper sous une même bannière la diversité des projets qui sous-tendent à la fois cette volonté de déconnexion avec la métropole, mais aussi celle de nouveaux projets de vie en société. Mais selon Guillaume Faburel, une chose est sûre, ce genre d'initiative se multiplierait.
Bref, un foisonnement, il y a une multitude en fait. C'est pour ça qu'on parle de passion joyeuse de la désurbanisation, c'est que ça peuple énormément de territoire national, en dehors des grands cadres métropolitains, en dehors des grands espaces d'hyperdensité urbaine. Et là, on est allé voir de l'habitat autogéré, des expériences de permaculture un peu génériques, voilà, des fermes sociales, des centrales villageoises, il y a des coopératives intégrales, des communautés existentielles. Ça maille tout le territoire, voilà, mais dans une multitude, et dans, à l'échelle du petit.
En plus de se vouloir écologique et ruraux, ces nouveaux modes de vie cherchent à relocaliser des activités économiques, mais aussi à ralentir les rythmes de vie. Ce désir de décélération, on le retrouve par exemple dans l'enquête Forum Vie Mobile, menée en 2016-2017 auprès de 12 000 personnes dans plusieurs pays occidentaux.
Et pour le cas français, ça fait partie des 6 pays qui ont été enquêtés, ce qui ressort particulièrement, une fois qu'on a posé le commun du ralentissement et du ménagement, c'est l'envie de décroître. Voilà. Donc un ralentissement par une décroissance, bon après il faut regarder dans le détail les résultats, mais indéniablement, ce qui se joue derrière, c'est aussi des formes revendiquées de décroissance urbaine, voilà. Et donc des milieux de vie ou des cadres de vie qui seraient considérés comme plus à taille humaine.
Du coup, s'éloigner de la grande ville pour retourner à une vie plus simple, à la campagne, en collectif. Est-ce que c'est une douce utopie ou est-ce que c'est un contre-modèle de société possible ?
Pour essayer d'y voir plus clair, je suis allée à la rencontre de personnes qui s'apprêtent ou se sont déjà lancées dans l'aventure. J'ai ainsi commencé par joindre Pauline, qui planche, elle, sur la question des oasis.
Ce terme vient de Colibri, en fait, de Pierre Rabhi, qui a désigné sous ce nom-là des lieux de ressources qui peuvent être autant des habitats participatifs que des oasis, des associations où on peut trouver des espaces de jeux, de rencontres. Enfin voilà, pas forcément des lieux d'habitation des oasis, mais c'est en tout cas des lieux qui regroupent des gens qui sont engagés dans une démarche de transition et l'état d'esprit de Colibri, donc d'écologie, d'attention à soi, aux autres, voilà, en gros.
Ok, petit rappel pour nos auditeurs et auditrices. La fable du colibri est tirée d'une légende amérindienne et popularisée par l'association de l'écologiste Pierre Rabhi. En gros, c'est l'histoire d'un immense feu de forêt qui fait fuir tous les animaux de celle-ci, puisque tous tentent d'échapper aux flammes.
Tous, sauf un petit animal, un minuscule oiseau, le colibri. Lui, il refuse de fuir et il s'efforce de verser péniblement un peu d'eau sur les flammes. Et lorsqu'on lui demande pourquoi il agit ainsi, alors que son action semble dérisoire, il répond « je fais ma part ».
Bref, la part du colibri, c'est l'idée qu'une action individuelle est une goutte d'eau dans l'océan, mais qu'à plusieurs, on peut changer la société.
Revenons donc à Pauline et à ses oasis, qui peuvent prendre la forme d'un habitat partagé, dont l'objectif est alors de réduire notre empreinte écologique.
Une personne vivant seule générerait 10 685 kg de CO2 par an, selon une étude Ipsos de 2010, contre 5 436 kg par individu pour un foyer de 3 personnes.
Il y avait une démarche de formation en ligne pour créer des habitats participatifs en répondant à une charte d'écologie, de valeurs collectives, de gouvernance partagée, un accompagnement juridique. Et donc voilà, ça a lancé plein de projets en France avec des formes juridiques nouvelles qui sont apparues, comme la coopérative d'habitants, peut-être qui est liée à la loi Allure, je crois, en 2014, il me semble. Mais qui est encore très très peu défini et peu encadré par des lois qui sont en fait souvent dépendantes d'arrêtés préfectoraux.
Depuis la loi Allure de 2014, les personnes intéressées par l'habitat participatif peuvent donc s'associer sous forme de coopératives d'habitants ou de sociétés à capital variable. Avec une condition, que les éventuelles personnes morales, c'est-à-dire les entreprises, les bailleurs qui y adhèrent, ne détiennent pas plus de 30% du capital social ou des droits de vote. On évite ainsi que des entreprises, fonds de pension ou fondations puissent prendre le contrôle de ces dispositifs horizontaux.
On peut donc mutualiser des ressources afin de concevoir, financer et réaliser à plusieurs un même habitat à titre de résidence principale. Par exemple, dans le projet d'Oasis de Pauline, chacun des participants avait son propre logement, mais avec des espaces communs. Un grand jardin extérieur, un projet de potager, une salle de vidéo, un studio pour recevoir des invités, un local à vélo ou encore une lingerie. Le tout dans un ancien moulin entouré de 3 hectares, à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Strasbourg.
Oui bon, c'est près de la métropole, en fait ils peuvent aller à Strasbourg en transport en commun, non ?
C'est effectivement une question importante. Comment ne pas être dépendant de la voiture pour vraiment réduire l'empreinte écologique ?
La dépendance automobile dans la périphérie, c'est une évidence. Mais c'est là où, à mon avis, les sociétés locales annoncent un contre-modèle qui, pour moi, clairement, pose directement la question de la croissance infinie, éternelle, de l'illimité de l'économie plutôt capitalistique. Hein, c'est un doux euphémisme. C'est que, en fait, il y a une dépendance à l'automobile, mais parce que il n'y a pas eu de réflexion vive, forte, importante sur la question de la relocalisation de l'emploi. Voilà. Donc il y a des dépendances évidentes au flux domicile-travail, il y a une distanciation croissante, voilà. Alors qu'on peut aussi envisager qu'il y ait une forme de recentralisation un peu à taille humaine, hein, des unités de vie et des productions de valeur.
Finalement, face aux tout-voitures, notre empreinte écologique est peut-être plus faible quand on vit dans un appartement en métropole et sans véhicule. Puis dans les zones rurales, il y a les épandages, les pesticides qui émettent des polluants dangereux pour la santé aussi.
Si on rapporte au niveau individuel de pollution, l'empreinte carbone des citadins est en effet deux fois plus faible que celle des ruraux selon une étude de l'INSEE de 2011. Sauf qu'en ville, les particules fines dues aux voitures ou au chauffage urbain sont plus concentrées. Et que, comme le rappelle Guillaume Faburel, entre ville et campagne, l'étalement périurbain passe aussi par des zones pavillonnaires, aux mauvaises performances thermiques, et qui contraint leurs habitants à utiliser là encore le tout-voiture. Donc le projet d'Oasis de Pauline se situe à proximité de la métropole de Strasbourg, pour être au cœur des réseaux de transport urbain.
Voilà, localisation super intéressante, mais du coup super chère au niveau du foncier, parce que un peu banlieue riche, quoi, si on veut. Mais déjà en zone rurale, en fait, parce que c'est l'Alsace, à ce moment-là, il n'y a pas de zone d'activité, c'est vraiment... Déjà, il y a des zones agricoles qui s'engouffrent au milieu de très gros villages qui sont en train de faire le noyau périurbain de la ville de Strasbourg.
Aux portes de la métropole, on est déjà à la campagne, ce qui explique ici l'attractivité et les prix. Et donc la critique qu'on entend souvent, c'est que finalement, ces projets sont un peu des projets d'intello, de bobo. Bon, le terme est sociologiquement douteux, mais on comprend l'idée. Ce serait réservé à une certaine frange de la population plutôt favorisée. Une remarque faite par exemple par l'économiste Sylvie Charlot, que j'avais déjà interrogée lors de l'épisode consacré aux métropoles.
J'ai quand même l'impression que, évidemment, hein, que, enfin, on peut avoir espoir que ce ne soit pas le cas, mais... Enfin, moi, j'ai quand même l'impression que c'est des points de vue intellectuels qui sont un peu déconnectés, quoi. Enfin, évidemment qu'il y a un certain nombre de cadres sup qui lâchent leur emploi parisien, qui lâchent leur emploi parce qu'ils ont mis de côté, donc ils peuvent investir dans la ferme, je sais pas quoi, dans le rural, quoi. Et puis, mais c'est vrai aussi que ça change complètement les structures sociales et foncières aussi, je pense, de certaines communes rurales. Mais, le constat, il est là. Pour l'instant, on vit tous autour, nos activités, elles sont quand même très orientées autour des villes.
En allant faire un petit tour sur les sites immobiliers de certaines communes qui accueillent ce genre de communautés néo-rurales, on constate que le prix du foncier a parfois bondi. Pour autant, pas sûr que ces projets alternatifs concernent forcément des ménages aisés.
Alors le projet au départ, c'était un projet pour 7 foyers, dans lequel on trouvait des professions comme infirmières, clown, nous on est tous les deux intermittents, un agent de maintenance en maison de retraite, une secrétaire, une assistante maternelle, un économiste du bâtiment. Enfin, voilà, pas spécialement les professions tertiaires qu'on peut attendre habituellement dans ce genre d'habitat participatif.
Même s'il a fallu qu'il réévalue le nombre de familles à la hausse pour supporter le coût du foncier, le projet d'Oasis de Pauline regroupe des familles de classe moyenne. En plus des normes d'habitat écologique, ces oasis semblent remplir toutes les cases. Mixité sociale, permaculture, voire création d'emplois, ici la création d'une crèche. Et on comprend que les élus des métropoles voisines cherchent souvent à promouvoir ce genre de projets sur leur territoire. La métropole strasbourgeoise les a d'ailleurs aidés en les mettant en contact avec le maire du village ou en les aidant à faire modifier le plan local d'urbanisme. Mais selon Guillaume Faburel, les dérives ne sont pas loin.
Donc on a un peu partout, là j'insiste là-dessus, des discours très forts visant à convaincre et à bâtir un imaginaire du désir et à convaincre chacun que finalement l'hyperdensité, que la polarisation extrême aurait quelques vertus environnementales. Voilà, la densité serait bon pour l'écologie planétaire et nos écosystèmes de vie. Donc on va bucoliser et du coup on va néanmoins végétaliser, renaturer dans le cadre de projets d'aménagement, de projets d'urbanisme qui se convertissent tous un à un à la vertu environnementale écologique. Donc en France, c'est devenu d'ailleurs démonstrateur à l'international, en France ce sont les écoquartiers et les écocités.
Un écoquartier, c'est un quartier urbain aux normes environnementales. Selon Guillaume Faburel, derrière ce vocable générique, se cachent en fait deux réalités. Dans de rares cas, il désigne des projets impulsés par les habitants autour de nouvelles façons de vivre. Entraide quotidienne, système d'échange local, réduction des consommations énergétiques, potager partagé, matériaux durables. Mais la plupart du temps, il s'agit davantage d'un outil de marketing territorial au service de la compétition métropolitaine. Il est ainsi critique de ce qu'il appelle la bucolisation des périphéries. Pour lui, les vrais contre-modèles seraient ailleurs, ils s'égrèneraient loin des métropoles dans de nombreux petits villages reculés.
L'invincible puissance de Rome, comme les serres du Faucon, elle s'est refermée sur tous les continents, sauf ici, en Armorique, où une poignée d'irréductibles Gaulois continue de rire au bec de l'aigle impérial.
Voilà, ce sont des petites émergences, 5 personnes par-ci, 20 par-là, une cinquantaine éventuellement, ou dans des petits villages, ou des bourgs, ou des hameaux, qui vont être amenés à se repeupler un peu modestement, mais néanmoins, sur la base d'autres économies locales, en fait.
Parmi ce genre d'initiatives, il y a une vieille communauté dans l'Isère, celle de l'Arche de Saint-Antoine. Alors on vous rassure, aucun rapport avec l'Arche de Jean Vanier. Ce sont des communautés d'inspiration chrétienne qui ont été lancées dans les années 50 par Lanza del Vasto, sur le modèle des ashrams indiens. Bon, elles prêchent l'action non violente, le discours interreligieux, mais aussi l'écologie. Depuis 1987, une trentaine de personnes, dont plusieurs familles avec enfants, ont élu domicile dans ce très beau village de Saint-Antoine-l'Abbaye, au sein de bâtiments communs appartenant à l'association. Les logements y sont modulables. Pour chaque nouvel arrivant, on ouvre une pièce de plus. Guillaume Faburel m'a donc mis en contact avec Daphné, qui vit à l'année depuis 6 ans avec son mari et ses 2 enfants.
Donc c'est une communauté qui fait partie d'un mouvement qui s'appelle les Communautés de l'Arche, qui ont été fondées par Lanza del Vasto. La première communauté, elle a été créée en 1948. Et Lanza del Vasto était un grand critique de la société moderne, voilà, et notamment des grandes villes. Et il proposait un retour à une vie plus simple, en collectif.
Ces communautés ont eu une influence dans la formation du mouvement alternatif des années 50 à 80, celui à l'origine de l'altermondialisme. Mais là, ce n'est pas vraiment un phénomène nouveau. Ça fait aussi penser aux années hippies, aux initiatives communautaires de l'époque Peace and Love.
Voir au kibbutz, ces villages communautaires fondés en Israël, sur la propriété collective des moyens de production et sur l'autoconsommation paysanne. L'économie de marché y est au départ rejetée.
Vous vous levez alors que vous voulez. Vous faites ce que vous pouvez. Vous partez quand vous voulez. Elle a dit d'accord, elle a pris la place, elle est partie.
Sur le plan politique, les décisions sont prises à la majorité. Chaque individu, homme et femme, détient autant de droits que de devoirs. Bon. Ces villages typiques peuvent véhiculer d'autres injustices. Certains d'entre eux ont participé à la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens, par exemple.
Et du collectivisme socialiste, on est passé à la privatisation des logements. Mais poursuivons avec la communauté de l'Arche, où la spiritualité est quand même au cœur de la vie communautaire, avec des temps quotidiens de prière ou de méditation.
Pas sûr qu'on adhère tous à cette démarche.
C'est clair, c'est un contre-modèle un peu particulier, faut le savoir. Bon, ce qui nous intéresse dans ce plage, c'est l'économie. Écoutons un peu la suite.
Ensuite, on a une association pour gérer vraiment la maison d'accueil, le côté hôtellerie. Et donc, elle fonctionne un petit peu comme une entreprise, quoi. Elle a pas mal de chiffre d'affaires et tout ça. Et cette association, en fait, qui gère la maison d'accueil, elle salarie chaque célibataire qui est engagé et une personne sur deux dans les couples.
Ils ont donc une activité d'hôtellerie et de restauration qui fait revivre le village depuis 20 ans, mais dont le fonctionnement économique est un peu spécial. Les salaires qui y sont versés sont faibles. Chacun est payé à mi-temps, au SMIC horaire. Mais à côté de cela, les personnes de la communauté sont gratuitement nourries et logées. Et puis ces salaires, ils sont en réalité totalement reversés dans une sorte de pot commun.
Et ensuite, on se les re-répartit de manière pondérée. En fonction de nos besoins, et en particulier, on a défini un système de parts. Donc on a une part par individu dans l'unité familiale, une demi-part pour les enfants, une part entière pour les adolescents.
Ça rappelle un peu le calcul de l'INSEE des unités de consommation, non ?
Complètement. Ils vont même jusqu'à financer de quoi rendre visite aux familles de chacun. Une sorte de budget vacances.
Là encore, ce budget, on s'est fixé un pourcentage en fait, de ce qu'on a mis au centre pour ce besoin-là d'aller voir nos familles. Et on se le répartit de manière pondérée au kilomètre. Donc moi, si ma famille elle est en Normandie, et quelqu'un, si sa famille elle est en Allemagne, ben, ça va être un budget différent, quoi.
La rémunération du travail n'est pas pensée ici en termes de compétences ou de productivité, mais en fonction des besoins de chacun. Et même si la communauté accueille plutôt des individus en âge de travailler, elle pourvoit aussi à la retraite des plus âgés.
On lui dit, voilà, t'es à la retraite et maintenant, t'es libéré de tes obligations. Mais nous, ce qu'on observe, c'est que la majorité des gens qui arrivent à 65 ans, ils ont quand même encore envie de continuer à donner au projet. Ils aiment ce projet, ils ont envie de continuer à le faire vivre.
Sans tomber dans l'idéalisme naïf ou le retour aux années 60, il est intéressant de voir que des projets alternatifs de société perdurent ou sont toujours à l'étude. Des projets où l'économie se pense autrement. Mais évidemment, ces nouveaux modèles, outre qu'ils ne sont pas toujours si nouveaux et que beaucoup aussi ont disparu, ont des limites. Comme le reconnaît Daphné, quand on arrive dans la communauté ou quand on veut en partir, ce n'est pas la même liberté quand on a 100 000 euros de côté ou quand on n'a rien. Et évidemment, impossible dans ce genre de modèle de gagner plus ou de capitaliser.
Après, en fait, ce montage, il est fait un petit peu de briquet de broc. Il s'est fait au fur et à mesure du temps. Au tout début, c'était juste une caisse commune où les gens mettaient l'argent au milieu et chacun allait demander de l'argent quand il en avait besoin. On s'est rendu compte que c'était très, très compliqué à gérer parce qu'on n'a pas tous le même rapport à l'argent. Et donc, ça créait beaucoup de tensions, en fait.
Justement, pour limiter les tensions, comment ils prennent les décisions?
C'est une très bonne question, car en cherchant en permanence le compromis collectif, parfois rien n'avance. En ce qui concerne Pauline, c'est au final ce qui a contribué à lui faire abandonner son projet d'oasis. Aujourd'hui, elle cherche une petite maison individuelle, plutôt à la campagne, et près de copains avec qui elle partagerait toujours un logement d'appoint ou un potager.
On va dire que voilà, c'est toujours on appelle le TFH ou le putain de facteur humain, avec des gens qui ont décidé pour les autres. Et dans ce type de projet, c'est vraiment compliqué parce que tout le monde s'engage sur au moins une dizaine ou quelques dizaines d'années. Donc c'est difficile de passer par-dessus des manières de faire qui ne conviennent pas. Mais donc c'est fréquent hein, dans l'histoire des oasis que ceux qui sont dans le noyau initial du projet ne sont pas ceux qui y habitent à la fin sur place.
Rappelle-toi Léa, le foncier était tellement cher qu'ils ont dû se résoudre à augmenter le nombre de foyers pour venir occuper les lieux. Mais du coup, ça a rendu la gouvernance beaucoup plus lourde. On réécoute Guillaume Faburel.
Et là, effectivement, la question de la coopération est assez déterminante. La question de l'autonomie, qu'elle soit alimentaire, énergétique, qu'elle soit par le logement ou les déplacements. L'autonomie est structurante. Moi, pour moi, il y a véritablement un contre-modèle, une contre-société, clairement post-urbaine et décroissante qui se joue derrière.
Et dans la communauté de Daphné, alors ?
En fait, on utilise la sociocratie. Donc, c'est un fonctionnement par commission, avec des cercles, des premiers liens, des seconds liens. Donc la sociocratie, oui, c'est un mode de décision pour à la fois privilégier l'horizontalité et conserver néanmoins de la verticalité, parfois dans nos prises de décision aussi. Parce que quand on est totalement horizontal, en fait, c'est très paralysant pour un groupe. Et ça peut prendre énormément de temps, d'énergie pour se mettre d'accord sur quelque chose qui finalement n'est peut-être pas si important que ça. Donc on essaye de trouver un équilibre entre prendre des décisions tous ensemble, les décisions les plus importantes, et laisser les responsables de secteur prendre les décisions qu'ils ont besoin de prendre. En sachant qu'un responsable de secteur qui ne saurait pas trop quelle décision prendre peut toujours demander l'avis au groupe. Mais c'est différent de demander l'avis au groupe que de demander au groupe de décider.
Issue des théories systémiques des années 70, la sociocratie utilise le consentement, l'absence d'objection. Avec différents cercles de pilotage, beaucoup de délégations, voire même l'élection sans candidat. En bref, on a parfois cette image d'épinal de la campagne ou des communautés. Mais dans la réalité, plus le collectif est petit, plus les liens sociaux sont forts, mais plus la dépendance et la pression du groupe peut peser sur les individualités.
Oui, tout le monde épie un peu tout le monde parfois. Je connais bien, hein, moi qui ai grandi à la campagne. Ces communautés rappellent aussi les phalanstères, ces gros habitats collectifs pensés par les industriels utopistes du 19e siècle.
Exactement. D'un point de vue sociologique, le contrôle social reste fort. Et sous cet angle, l'anonymat et l'individualisme des grandes villes peut s'avérer protecteur, à condition de protéger les plus faibles par des politiques sociales ou de penser la transition écologique. En conclusion, d'un point de vue économique, si on se penche sur le dispositif précis de la communauté de l'Arche, on voit que c'est un système très concret, pas seulement spirituel. C'est une sorte de socialisme de marché qui a réussi à développer une entreprise durable en refusant la logique des grandes entreprises et des grandes inégalités. En mobilisant à la fois leurs connaissances en économie, mais aussi le capital culturel, les diplômes qu'ils ont souvent, certains néo-ruraux arrivent ainsi à remettre au goût du jour des procédés traditionnels de production, la permaculture, l'artisanat ou la restauration-hôtellerie, avec un marketing bien pensé, un packaging, un argumentaire autour du terroir et du développement durable. Bref, ce type de retour à la terre, c'est une combinaison d'économies de marché assumées, à plus petite échelle et relocalisées, et d'un certain refus du capitalisme.
J'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant, pour trois fois rien à crédit sur deux ans. C'est au cœur du Larzac, au bord d'une rivière, dans un joli lieu dit appelé le désert.
Rendez-vous au prochain épisode de Splash pour jeter un pavé dans la mare. Rien de mieux pour se muscler les idées. Splash est une idée originale d'Étienne Tabag. Cet épisode est écrit et animé par Laurine Melka, co-animé par Léa Lejeune, produite par Nouvelles Écoutes. Prise de son, Johanna Cincinnatis. Montée et coordonnée par Marine Rowe, mixée par Laurie Galligani. Pour vous pencher sur les études, les chiffres et références entendus dans l'épisode, ils sont à retrouver dans la description de l'émission et sur le site de Nouvelles Écoutes en vous rendant sur la page de Splash. Vous pouvez retrouver Splash sur Twitter, Splash Podcast tout attaché, et sur Instagram sous le même nom, Splash Podcast sans espace. Chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas, vous aussi, à nous poser des questions économiques dans les commentaires de l'émission sur Apple Podcast, et nous prenons toutes vos bonnes idées contre 5 étoiles. À très vite !